Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
On a extrait 7 clés tactiques du livre de notre invité du jour pour t'aider à faire des choix payants sur le court et gagner plus de matchs, même sous pression. C'est notre tournée Les Légendes, c'est cadeau dans le premier lien en description. Hello à tous, je suis avec Cyril Ravilly qui a écrit un bouquin, Les fondamentaux tactiques du tennis. Et alors attention, si vous voulez vous le procurer, c'est la deuxième édition. Ne pas faire d'erreur là-dessus. Comment ça va, Cyril ?
Très bien, merci de me recevoir, c'est un plaisir de discuter avec toi.
Eh bien écoute, c'est vraiment improbable parce que je suis allé dîner chez un pote et dans le coin de l'œil de mon champ de vision, il y avait ton bouquin. Et je t'avoue que moi, je ne suis pas trop attiré par ça de base, mais là, bah, je n'ai pas pu m'empêcher de me lever et d'aller le chercher en plein milieu du repas. Comment est-ce que tu en es venu ? Déjà, est-ce que tu peux nous dire en une minute qui tu es ? Ce que tu fais et nous expliquer la genèse de ce projet, un livre édité aux éditions Amphora, c'est quand même pas rien, il faut aller les convaincre. Tu n'es pas forcément Pete Sampras de base, même si vous avez peut-être le même âge.
Exactement. Non, effectivement, bon ben, je joue au tennis, mais à un niveau amateur. Je suis pas connu dans le milieu du tennis. Et effectivement, j'ai quand même la chance d'avoir avec Amphora un éditeur qui est assez exceptionnel, qui donne sa chance à des nouveaux auteurs, qui connaissent bien et qui ont des points de vue assez innovants sur des aspects très particuliers. Et ils s'attachent plus à la qualité du produit ou du livre qui est proposé que à la notoriété de l'auteur. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et la communauté des auteurs d'Amphora sont des gens qui sont assez intéressants. On se voit régulièrement et il y a beaucoup d'ouvrages qui sont assez atypiques et assez intéressants.
Mais comment t'as fait juste pour les embarquer? Parce que moi, j'ai contacté un ou deux éditeurs pour le podcast, pour faire un recueil, tu vois, d'anecdotes ou autres. Et on a beau avoir une communauté de dingue, eux, derrière, il y a une réalité économique. Comment t'as fait pour les embarquer là-dessus?
En fait, pourquoi d'abord j'ai commencé à écrire un bouquin, c'était parce que je donnais pas mal de conseils à ma femme. Et elle m'écoutait pas parce que j'étais pas crédible. Et deuxièmement, je me dis tout ce que j'essaye de lui enseigner, c'est pas ce que généralement les profs de tennis enseignent, mais je trouve que ça a quand même de la valeur et c'est dommage que ce soit perdu. Assez rapidement, j'ai fait un petit ouvrage en 100 pages et moi, je voulais travailler qu'avec Amphora, donc je l'ai envoyé à Amphora. Et Amphora m'a dit, ben, moi, j'aime bien ton bouquin, mais il est trop léger. Les gens n'achètent des bouquins que si c'est la référence dans le domaine. Or okay. Là, il est un peu trop superficiel et donc ça n'intéressera pas les gens. Et ils disent, les gens n'achètent que si tu deviens vraiment la référence, la bible du domaine. Et donc, j'ai essayé un peu ailleurs pour voir si leur avis était pertinent. Et effectivement, il était très. Et je suis revenu vers Amphora en disant, bon, bah, effectivement, c'est un ouvrage, mais il faut me donner un an pour le réaliser et on a été tout de suite d'accord et donc j'ai pris un an pour le réaliser et passer du temps qu'il fallait à côté de mon activité professionnelle.
D'accord. Donc dans ta rapide présentation au début, tu es diplômé de Sciences Po Paris, de l'ESSEC, tu as un DEA d'économie et de finance. Tu as fait toute ta carrière dans la banque d'affaires et le management de grands groupes internationaux et c'est ton expérience du conseil en stratégie, en tactique de négociation, ainsi que ta longue histoire avec le tennis qui t'ont amené à écrire cet ouvrage. Peux-tu nous donner dans les grandes lignes ta carrière tennistique et peut-être un ou deux faits de négociation en dehors du tennis où tu t'es dit, tiens, là, j'ai un truc, je sens que j'ai quelque chose pour peut-être transférer mes compétences dans le domaine du tennis, quoi.
Alors, moi, au tennis, comme un peu tout le monde, enfin, comme beaucoup de joueurs de mon âge, on a joué jeune, on s'est arrêté sur les coups de 18-20 ans. Moi, je suis monté 15-3. Et puis, à 40 ans, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on aime vraiment? Et je me suis dit, ben, ce que j'aime vraiment, c'est aussi le tennis, une fois que on a eu des enfants, voilà, et on revient vers le tennis. Et là, je suis remonté 15-2, et là, actuellement, je suis 15-3.
OK.
Voilà, donc vraiment un niveau amateur. Mais ça m'empêche pas de consacrer, je serais tenté de dire, 2-3 heures de temps de cerveau libre disponible au tennis, à analyser les matchs, à regarder les matchs, à lire tout ce qui se passe dans le domaine et à être très, très intéressant. Sur les aspects pro, je serais tenté de dire qu'il y a beaucoup d'éléments psychologiques dans la négociation. Et on y reviendra, mais au tennis aussi, même si ce n'est pas le cœur de mon ouvrage, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont psychologiques. Et donc, c'est comme aussi, je serais tenté de dire, dans une négociation d'acquisition d'entreprise, il y a une opération sur trois qui va planter dans la dernière semaine. Parce que, au dernier moment, il y en a un qui va demander plus ou qui va arriver avec un nouveau point, et ça fait casser la négo. Et c'est un peu comme le money time au tennis, où je pense que quand on arrive à la balle de match, on n'a fait que la moitié du boulot, et il reste encore la moitié du boulot à faire. Et donc, jamais se dire sous prétexte qu'on est proche de la fin, aussi bien en négociation M&A qu'au tennis, que c'est fini. Et toujours douter. Et toujours mettre l'énergie suffisante pour faire ce que le dernier miles, comme diraient nos amis anglo-saxons.
Après, il y a beaucoup de stats dans ton ouvrage, mais la stat ne se vérifie pas forcément sur 50% des gens qui ont des balles de match qui perdent leur match pour autant, quoi, tu vois.
Non,
Même si on
non, non,
comprend
non, non.
l'image.
Mais c'est vrai que si on se dit au niveau de la balle de match, c'est fait, c'est pas la bonne approche.
Ouais. Alors, moi, j'ai noté plusieurs choses pour démarrer un peu pied au plancher. Au départ, tu dis que c'est beaucoup plus simple de perfectionner rapidement son niveau de jeu par une bonne tactique que par une amélioration de sa technique. Donc ça tombe bien, on est là pour en reparler, puisque la technique demande beaucoup de pratique. Le but avec la tactique, c'est de moins se déplacer tout en faisant plus courir son adversaire. Par exemple, un 6-4-6-4, statistiquement, c'est jouer sur une dizaine de points, et tu vas nous aider à les faire basculer de notre côté. Énorme teasing, va falloir être bon. La stratégie, c'est ce que l'on veut faire. Par exemple, définir un plan de jeu gagnant, alors que la tactique, c'est comment le faire. Par exemple, avoir
Sur
une
chaque
mais.
coup,
Voilà.
comment optimiser sur chaque coup, alors que la tactique, c'est effectivement la stratégie, c'est un ensemble de tactiques pour arriver à ses fins.
Ouais. Donc, on va voir ensemble où jouer son prochain coup, quelle direction, comment et pourquoi. Et j'ai récupéré aussi des questions concrètes de joueurs troisième série entre 15-3 et 15 qui peuvent avoir du mal à mettre en place ces conseils que tu peux donner dans le livre parce qu'il y a beaucoup de conseils autour des zones à aller chercher. Quand on est en match sous pression, c'est toujours un peu plus difficile qu'à l'entraînement. Donc, tu essaieras de nous répondre à ça. Mais pour démarrer, tu as fait préfacer le livre par deux mecs qui pèsent quand même, Patrick Mouratoglou, Stéphane Oudet. Comment tu as fait pour les embarquer dans cette aventure?
Bah, Stéphane Oudet, c'était assez facile parce que j'ai eu la chance d'être son sparring partner pendant quelques années.
Ok.
Et objectivement, c'est quelqu'un, bon, il est triple champion paralympique, donc enfin, c'est quelqu'un qui sera toujours aux Jeux de Paris 2024. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel, à la fois dans son tempérament, dans sa volonté d'aller toujours plus loin, de tutoyer ses limites, et sa volonté extraordinaire. Donc, humainement, c'est quelqu'un de fascinant, et tennistiquement, c'est assez exceptionnel ce qu'il fait. Il va enchaîner, je sais pas, ses septièmes Jeux paralympiques. Donc, enfin, non, c'est plus qu'un dur à cuire.
À 50 ans passés, c'est beau, c'est très très beau.
Et Patrick Mouratoglou, parce que j'ai une grande admiration pour lui. C'est quelqu'un qui est très ouvert, qui justement juge pas les personnes, qui regarde. Il a regardé mon livre et à partir de la lecture de mon livre, il s'est dit, oui, ben là, je suis prêt à faire une préface. Donc, je suis très très touché et objectivement, il a vraiment pris le temps de faire une préface qui était vraiment réfléchie. Et objectivement, quand on regarde tout ce qui se fait sur le tennis, les analyses tactiques, alors en bénéficiant effectivement des bases de données qui existent, mais les analyses tactiques d'un match de Patrick sont probablement ce qui se fait de mieux aujourd'hui en francophone sur le tennis.
Vous êtes resté en contact avec Patrick ou bien?
On se voit de temps en temps, mais pas plus que ça, objectivement. Et
Ok.
puis il est très pris, donc voilà.
Est-ce que tu es devenu une machine tactique depuis que tu as écrit ce livre? Et est-ce qu'il y a pas une promesse derrière ça, mais si tu devais condenser, toi qui es un homme de stats et d'entrepreneuriat, donc tu dois aimer l'optimisation, quelqu'un qui consomme ton livre et surtout le met en application, tu dirais qu'il peut aller chercher quoi en termes de bénéfices et de résultats applicables dans son jeu, peut-être en pourcentage, j'en sais rien. Comment
Moi,
tu quantifierais?
je pense que tu peux gagner un ou deux classements parce que, effectivement, si tu arrives à éliminer ce que j'appelle les grosses fautes tactiques et qui représentent chez un débutant de l'ordre de 20%, si tu les réduis à ne serait-ce qu'à 10%, ben, effectivement, tu gagnes 10 points et 10 points, ça te fait passer de 6-4-6-4 contre toi à 6-4-6-4 pour toi, quoi. Mais les grosses fautes tactiques, elles existent même au niveau professionnel. Quand on regarde un match de tennis, même au niveau pro, il y a de temps en temps des coups où on est quand même assez surpris. Ils vont jouer sans intention particulièrement agressive long de ligne et après ils vont se faire massacrer sur une accélération croisée. Et objectivement, pour moi, c'est une grosse faute tactique.
Est-ce que tu peux nous donner, du coup, on y va direct, hein, les grosses fautes tactiques à éviter à tout prix, sans forcément spoiler tout ton livre, mais si tu devais nous citer les plus grosses.
Bah, on reprenons cet exemple-là. Quand on joue long de ligne, il y a trois éléments qui sont importants à prendre en considération. Donc, quand on joue long de ligne, il faut vraiment jouer pour faire un coup décisif, un coup gagnant ou qui va provoquer la faute de l'adversaire. Sinon, on se met mécaniquement en difficulté. Pourquoi? Parce que quand on joue long de ligne, déjà le terrain, il est 1,40 m plus court que quand on joue croisé. Donc, toutes les fautes où on joue long de ligne et on sort d'1,40 m en ayant joué croisé, ben, la balle aurait été bonne. Deuxième élément, le filet est plus haut. Donc, à chaque fois qu'on se prend la bande de filet en attaquant long de ligne, ben, en jouant croisé, la balle, elle serait passée. Et troisième élément qui est encore plus important, c'est lié au replacement. Quand on joue long de ligne, il faut se replacer de 7 mètres. Alors que quand on joue croisé, on a à se replacer en moyenne que 1 mètre. Et donc, quand on sait qu'on fait 80% de ses fautes quand on se déplace de plus de 3 mètres, en jouant long de ligne, on sait qu'on va offrir à l'adversaire la possibilité d'avoir un filet plus bas, d'avoir 1,40 m de terrain plus long et d'avoir à se déplacer 7 mètres. Donc, on se met mécaniquement dans une situation difficile.
Se déplacer 7 mètres si l'adversaire rejoue croisé derrière.
Voilà, s'il rejoue croisé derrière. Mais de toute manière, comme on va d'une manière ou d'une autre courir très vite pour essayer de couvrir ces 7 mètres le plus vite possible, on est encore plus vulnérable au contre-pied. Donc enfin, dans les deux cas, on n'est pas très bien. Voilà. Deuxième exemple, un peu.
Non, mais ça veut dire quoi? Juste avant d'aller sur le deuxième exemple, c'est-à-dire que tu joues 80% de tes coups dans la diague?
Ah, même 90% de mes coups dans la diag. Et tu joues long de ligne que quand tu as une balle dans les carrés de service. Et là, tu vas pas le faire systématiquement, mais tu vas le faire une fois sur deux ou une fois sur trois, quoi, pour
Et
vraiment surprendre l'adversaire.
tu te... Excuse-moi du terme, mais tu te fais pas chier dans ton jeu. Enfin, spontanément, je me dis, mais il y a moins de créativité. Alors oui, c'est plus optimisé, mais du coup, c'est quoi le résultat?
Déjà, moi, je suis gaucher. Donc, quand je joue sur la diague, c'est la diague du revers de l'adversaire. Donc,
C'est
bon,
du stylet.
c'est toujours plus plaisant d'agresser sur le revers de l'adversaire que d'être agressé sur son propre revers, sur les diagonales inverses, quoi. Donc, j'ai pas vraiment envie de changer la dynamique. Je suis sur la bonne diagonale. J'ai pas envie qu'ils me mettent sur ma mauvaise diagonale.
Est-ce qu'il y a une stat là-dessus, justement, sur force-faiblesse entre coup droit et revers, peut-être jusqu'à un certain niveau? Est-ce que tu l'as analysé, ça?
Non, mais grosso modo, le coup fort reste le coup droit pour au moins 85% des joueurs. Donc,
Crois que ça. Je ne sais pas si tu as vu passer, en fait, du contenu avec un statisticien qui s'appelle Fabrice Barrault.
oui,
Et il expliquait que
je connais.
c'était. Tu le connais bien, ouais?
Ben en fait, s'il a fait son bouquin chez Amphora, c'est moi qui l'ai recommandé. Et donc,
D'accord.
on s'apprécie beaucoup et j'aime énormément ce qu'il a fait. Et donc, s'il est aussi sur Amphora, et dans sa préface, la première personne qui remercie, c'est moi.
Ah, sympa. Mais ouais, il explique le fait que le coup droit, dans 80% des cas, comme tu le dis, est meilleur parce qu'on en frappe plus déjà de base. C'est un coup autour duquel on va peut-être plus travailler le décalage.
Mais Nadal disait, si j'arrive à jouer 70% de coup droit, eh ben, je suis sûr que je vais gagner le match, quoi.
Ok, bon après c'est Raph, hein. Merci du cadeau.
Après, c'est Rafa.
T'es un
Oui,
peu
mais enfin,
une
ça veut dire qu'il
version
suit quand même
Rafa
cette
de.
statistique, quoi. Il
Ouais.
sait que pour être gagné, il faut qu'il arrive à jouer suffisamment de coup droit et pas se faire embarquer sur son verre, quoi.
Deuxième très grosse erreur tactique qu'il faut
Alors,
éviter de faire.
c'est par exemple quand on a une balle courte et que on n'est pas en mesure d'accélérer et de finir le point. Donc on est quand même un peu en retard, la balle est courte. Et là, souvent beaucoup de joueurs, et c'est très très joli esthétiquement, sont tentés de faire un magnifique slice long et monter au filet. C'est magnifique ça.
Sublime.
Franchement, quand on aime le tennis, c'est génial. Mais dans la vraie vie, ça rapporte que 35% des points. Pourquoi? Parce que faire un slice, il faut qu'il soit très long pour mettre en difficulté l'adversaire. Il va être obligé d'être très rasant par rapport au filet, donc tu risques de te manger la bande du filet. Après, avec l'effet Magnus, la balle, elle va être quand même, quand elle va arriver, elle va être un peu flottante. Il est quand même rare qu'elle soit complètement fusante. Donc, ça met l'adversaire en position assez facile pour tirer un passing et ou faire un lob. Et donc, au total, entre les risques d'erreur que tu fais en tirant ce revers ou ce coup droit très slicé entre la bande du filet ou qui sorte ou qui soit court ou tu vas te faire massacrer. Et deuxièmement, la capacité qu'a l'adversaire sur une balle qui sera pas très vive malgré tout de te faire soit un lob, soit un passing gagnant. Tu gagnes alors que tu es en position normalement favorable puisque tu as une balle courte, ben les stats montrent que c'est pas favorable.
Donc,
Mais esthétiquement, c'est très joli. C'est pas ta génération, mais un revers chopé de Vitas Gerulaitis, c'était magnifique esthétiquement. Mais dans la pratique, c'est pas rentable. Et là, c'est mon côté businessman où je dis ben, faire un coup qui rapporte pas et quel que soit. C'est des moyennes, ça, sur un ensemble de joueurs. En
ouais.
revanche, sur ce coup-là, faire une sorte de contre-amorti, c'est beaucoup plus rentable. Là, tu gagnes à 55% des cas. Donc, c'est
Ah
bien
ouais.
meilleur. Bah, parce que c'est l'autre qui est dans la situation du con,
Ouais.
où il va avoir à faire à
Je suis
peu près la
con.
même chose. Et pour peu qu'il essaye de faire cette magnifique approche chopée longue, et bah, il va se mettre dans une situation difficile lui-même. Et
Alors.
de surcroît, comme la balle est courte, ben, ta probabilité de faire une amortie gagnante, elle est quand même assez forte, quoi, parce que la balle voyage moins longtemps, l'autre a moins de temps pour se préparer, pour courir et la couvrir. Donc, surtout si tu la fais enfin, directement devant toi, donc pour qu'elle voyage le minimum de temps possible, c'est assez payant comme coup. Et c'est plus payant que cette magnifique montée chopée.
Et c'est plus payant que l'entre-deux, essayer d'arriver à l'heure, recouvrir, croiser
Ah
au
ben
long
non,
de
mais ça,
ligne.
si tu recouvres, ça, on part du principe que t'es trop en retard pour être capable de recouvrir et de mettre un gros pain. Ça, évidemment, la meilleure stat,
Sans
c'est.
parler d'un gros pain, sans forcément
Ouais, mais
la
puis tu la places.
chipper,
Ou...
peut-être
Ouais.
juste la pousser, tu vois. Là, on a une stat là-dessus, si on la pousse en
Non,
face.
non. Parce que moi, j'ai fait des stats sur quand même les joueurs pros et c'est quand même assez rare que les mecs pros, ils poussent la balle. Ils vont quand même mettre un effet, ils vont. Soit ils vont te la lifter très court croisé s'ils ont suffisamment de temps, soit ils vont choper parce qu'ils sont débordés et il la rattrape une situation pas aussi confortable que s'ils pouvaient attaquer, quoi.
Une rubrique pour approfondir, et du coup, il y a une ligne qui attire mon attention, c'est le toucher n'est pas qu'un don, mais pour envoyer une contre-amortie quand même, un minimum touché, c'est quoi la recommandation pour le bosser ce coup-là?
Bah, à l'entraînement, il n'y a pas de secret, hein. Les petits jeux dans les carrés de service, c'est quand même pas mal. Déjà, c'est récréatif. Et puis tu travailles quand même intensément le placement de balle, le toucher. Sinon, il y a pas mal aussi d'exercices qui peuvent être faits où tu t'attaches à l'endroit où arrive le deuxième rebond de ta balle. Et tu vois, tu partages les carrés de service en deux. Donc, tu coupes le carré de service en deux et tu t'entraînes sur des balles qu'on t'envoie courtes, bah, à ce que le deuxième rebond de la balle reste dans la première moitié du carré de service. Et ça, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Et tu t'aperçois qu'au début, tu dis, bon, bah, facile. Enfin, alors, ça dépend du niveau, mais. Au départ, tu dis bah c'est facile et puis tu aperçois que c'est quand même très très compliqué quoi. Une bonne fréquence et parce que à l'inverse, il faut quand même que tu la réussisses à 80% des cas, sinon c'est pas rentable.
On le bosse très rarement, l'amorti à l'entraînement, ça veut dire que j'en sais rien, t'as demandé à ton prof ou à ton
Ouais.
partenaire de dire, bah voilà, fais-moi bosser là-dessus et tout. Toi, t'es de ce genre-là, quoi.
Ouais.
T'aurais un exemple, un cas de figure d'exercice que tu peux demander comme ça, pour notre audience?
Ben là, c'est par exemple mon prof cette semaine nous a fait travailler cet exemple dont je parle.
Mais parce qu'il a lu ton bouquin ou parce que tu lui as demandé ou parce qu'il est
Non, parce
incroyable?
que il est aussi très joueur quoi et il sait à la fin que ben, c'est vrai que ces points-là rapportent énormément de points et a fortiori sur terre battue.
Et alors, il y a une info que tu as balancée à la volée, mais que je dois souligner parce qu'elle est hyper importante, c'est réduire le temps de vol de l'amorti. Pareil, en le lisant, je n'avais pas compris, mais là, je viens de le comprendre. C'est-à-dire que sur une contre-amorti, forcément, le temps de vol, comme on est déjà proche du filet, est beaucoup moins long que quand on tente une amorti de sa ligne de fond de court, par exemple, ou 1,50 m dans le terrain. Donc, gros avantage à ce moment-là.
Ouais, et on voit par exemple quelqu'un comme Alcaraz, il joue l'essentiel de ses amortis juste devant lui.
OK.
C'est-à-dire pour que la balle fasse le minimum de temps de trajet possible. Il les joue quand même très rarement croisés. C'est un point qui est intéressant à noter. Et on s'aperçoit que c'est logique parce que la course de l'adversaire, on s'aperçoit que. C'est une exponentielle. Enfin, il met du temps pour démarrer. Et donc, le temps de départ, il a pas de vitesse au départ. En revanche, au bout d'une, 2 secondes, là, il est en pleine accélération et il couvre beaucoup de terrain. Donc, si on fait une amortie qui vole peu et donc qui entre le moment où on la frappe et le moment où elle atterrit et elle fait son premier bond, est très limitée. Ben en fait, la personne n'a pas le temps d'avoir sa vitesse maximale où il couvre beaucoup de terrain. Avoir un temps de vol réduit sur l'amorti est quelque chose qui est essentiel pour avoir un taux de succès important. Et
Yes.
ça veut dire que, et on s'aperçoit que dans les stats, il y a 75% des amortis gagnantes qui sont juste, qui sont pas croisées, mais qui sont longues lignes.
Je sais pas si tu viens de voir passer, mais a priori, Gilles Simon, un tacticien expert, rejoint le team de Daniil Medvedev en tant que consultant. Tu as vu l'info ou pas?
Oui, j'ai vu l'info. Et c'est très intéressant parce que tu parlais aussi de Fabrice Barrault, mais Fabrice est aussi le statisticien de Medvedev.
Été, été. Attention,
Oui.
Cyril, attention, tes fiches.
Non, mais d'accord.
Et d'ailleurs, de Gilles, pas de Daniel, c'est important de le préciser.
Oui, et de Gilles Servara. Mais ça montre quand même que Daniil est quand même celui qui est le plus en avance de tous les joueurs sur cet aspect-là. Et objectivement, je pense que c'est un très bon choix. Il y aura peut-être tout à l'heure, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour Gilles parce que, objectivement, enfin, il avait un tennis où il n'avait pas de coups extraordinaires, il n'avait pas un service hallucinant. Il avait un coup droit mais qui défrayait pas la chronique. Il avait un revers régulier, mais qui n'était pas exceptionnel. Il n'avait pas une volée absolument inoubliable, mais il a réussi à être sixième mondial parce qu'il avait un sens tactique hors du commun. Et franchement, je pense que Gilles est capable d'apporter beaucoup à Daniil.
Et alors, une des commandes de Gilles et de Daniil, ça a été d'emblée d'analyser le jeu de 16 adversaires que Daniil n'aime pas jouer. Mais alors, ça, c'est très pratique sur le circuit parce que les mecs se suivent et se connaissent tous. Nous, commun des mortels, lorsqu'on arrive sur un tournoi qu'on ne connaît pas l'adversaire et qu'on le découvre, ou qu'on le connaît un petit peu, mais qu'on le découvre vraiment comme ça, tu vois, dès l'échauffement, comment tu nous recommandes d'établir une tactique, une stratégie, la mettre en place sur un inconnu comme ça au bout de 5 minutes d'échauffement ou 2, 3 jeux de début de match? Comment tu procèdes?
Déjà, à l'échauffement, on voit les éléments où il est à l'aise, où il n'est pas à l'aise, si quand il se déplace, si c'est sur des balles hautes, sur des balles basses. Et moi, pendant tout le match, j'ai mes propres petites statistiques en disant, bon, bah, sur ses fautes, il les a fait principalement sur ces coups-là, dans cette situation-là. Et c'est là-dessus que je vais essayer d'appuyer. Donc, dans la pratique, au tennis, on joue 10 à 15% du temps. Donc, on a quand même 85% du temps pour réfléchir, pour essayer d'analyser là où ça va pas, là où on marque des points et là où lui il en perd. Donc
Essayer de ne pas devenir fou.
ouais, mais se concentrer sur ça, ça évite de penser à autre chose et avoir des pensées parasites.
Ouais.
Donc c'est de toute manière, c'est comment est-ce qu'on gère le temps de cerveau libre durant tous ces moments-là et être concentré sur justement cette analyse des défauts, ce qui fait bien, ce qui fait pas bien. C'est un moyen de s'occuper l'esprit et d'éviter de penser à mon Dieu, le point prochain est super important, faut surtout pas que je le rate. Ce qui est la
Ok.
pire manière d'aborder un échange, quoi.
Donc déjà, tu commences tes matchs en te disant, je vais jouer 90% du temps dans la diag et quand l'occasion se présente, long de ligne. Et après,
Voilà.
t'affines en fonction de Roger,
Non,
Edberg ou Rafa en face, quoi.
Et dans mon livre, effectivement, j'ai 10 conseils tactiques qu'on peut garder en tête, et si on les applique assez régulièrement, ben on s'en sortira mieux que si on les applique pas, quoi. Ça,
Allez,
sans plus
balance,
d'être.
balance, balance. Faut en envoyer un ou deux, là, c'est parti.
Non, non, mais enfin, c'est des choses qui sont tellement, enfin, qui sont. Le tennis, c'est de la géométrie, donc il y a beaucoup de choses qui sont dans la tactique. Il y a de la balistique, mais c'est un ensemble de truismes. On est en difficulté et on est en défense. Il n'y a pas 50 000 coups à jouer. Il y a un coup principal à jouer qui est je vais jouer long, croisé et haut pour éviter que l'adversaire, pour me donner du temps pour revenir, pour que mon replacement soit directement proche de l'endroit où j'ai joué. Et pour neutraliser l'adversaire et qu'il ne puisse pas faire de coup gagnant immédiatement sur ce coup-là. C'est du basique, mais il y a encore beaucoup de joueurs qui, sur une balle où ils sont extraordinairement en difficulté, vont jouer all-in et envoyer avec un taux de succès de 10%. Moi, quand ils réussissent, je suis super content, je les félicite, je leur dis exceptionnel. Je veux qu'ils recommencent ça, parce que comme je sais qu'ils ont que 10% de chance de le faire, eh ben, c'est formidable, ça va être gagnant sur le match. Mais en revanche, quand l'adversaire fait une balle haute, longue et croisée, ben, on repart un peu de zéro dans l'échange, on peut essayer de monter à contre-temps, mais c'est pas évident. Enfin, et techniquement, faire le point, il faut partir tôt, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de déchets derrière, quoi. Donc, les réponses à cette défense qui est quand même assez basique, elles sont pas évidentes.
Est-ce qu'il y a une masterclass, un livre, un match du circuit qui t'a particulièrement marqué d'un point de vue
Ouais.
tacticien, stratège, et
Ben,
celui de quel?
ben justement, on va revenir sur Gilles et sur le rapport du faible au fort. C'est-à-dire que, y a un adversaire qui est sensiblement plus fort. Et comment Gilles, face à Djokovic, qui marchait sur l'eau à cette époque à l'Australian Open, il joue Gilles troisième tour. Et son objectif à Djokovic, ça va être d'essayer de passer le moins de temps possible. Il fait chaud, il veut gagner le tournoi, il veut pas s'épuiser. Il sait que Gilles est pas en mesure de lui poser des problèmes par ses attaques. Et donc, Gilles, il sait tout ça et il va faire le match qui va lui permettre d'être celui qui va le plus embêter Djoko sur l'ensemble du tournoi. Et Djoko va gagner qu'en 5-7, il va faire plus de 100 fautes directes. Et là, tout le monde va dire, ben, Djoko a pas bien joué. Non, c'est pas ça. C'est que Gilles, il s'est dit, il faut que je pousse Djoko à être obligé de faire des longs échanges, qu'il soit frustré et qu'il fasse des fautes. Et donc, comment je joue contre ça? C'est-à-dire, je vais jouer au milieu, long, et je vais l'empêcher d'avoir des angles. Donc, résultat, Djoko, il fait à gauche, à droite, à gauche, à droite, ça revient, et donc il est obligé de prendre plus de risques et il va faire beaucoup de fautes. Mais pendant tout le match, Gilles Simon a gardé cette stratégie qui était excellente parce que Djokovic, voulant aller vite, il voulait terminer les points tôt, et donc il a pris plus de risques qu'il ne devait. Et quand on joue au milieu, ben, pour déborder l'adversaire sur un coup gagnant, c'est très compliqué. Et donc, grâce à cette tactique, en étant probablement significativement moins fort que l'adversaire, il a gagné la bataille psychologique. C'est-à-dire qu'il a fait un match long, il a fait que Djoko s'est frustré, il a fait que Djoko a fait plein de fautes directes. Mais ça, c'est parce qu'il avait la bonne tactique.
Précision incroyable, j'étais dans les tribunes de ce match à côté de Emmanuel Planck, entraîneur emblématique. À l'époque, je faisais pas tennis légende et j'ai même pas osé lui dire bonjour à Emmanuel alors que c'était mon voisin. Enfin bref, j'ai toujours un peu honte. Je crois que ça avait fait 7-5 troisième, cinquième pardon. Et pour le commun des mortels, tu vois, si je débriefe de ça avec Ralph Bogossian qui est un entraîneur et prépa physique, notamment de Benjamin Bondy, qui a été top 60 mondial, il va te dire, bah ouais, faut le faire, faut y aller, faut se battre, faut faire du Gilles Simon. Mais dans la vraie vie, personne n'a envie de faire pendant 4 heures du Gilles Simon, de remettre la balle au milieu du court et d'attendre et de faire un travail de sape. À part toi, peut-être, qui est un fin stratège et qui sait que ça peut payer parce que derrière, j'en sais rien, tu peux gagner en perf parce que tu t'es mis en confiance, machin. Foutre la balle au milieu du court pendant 3 heures pour nous, hein, eux, ça a duré 5 heures, nous, on va dire 3 heures, c'est chiantissime. Tu réponds quoi à ça, toi?
Ben je réponds, soit tu as le talent, soit tu es laborieux.
Ouais.
Et à la fin, tu vois, enfin, un match de tennis, il n'y a qu'un seul vainqueur. Tu vois, enfin, on dit souvent, c'est un peu comme les échecs, c'est psychologique. Non, aux échecs, tu peux avoir une partie nulle. Alors que, quoi qu'il arrive au tennis, il n'y a qu'un seul vainqueur. Et objectivement, tu as deux gladiateurs qui sont dans l'arène. Et la question, c'est lequel va survivre. Alors, effectivement, ça dépend un peu de ta psychologie. Si pour toi, ce qui est essentiel, c'est de faire du beau jeu, même si tu perds, c'est sûr que t'as pas besoin de tactique, quoi, parce que tu vas envoyer tes coups, ça marche, formidable, tu gagnes. Ça marche pas, tu perds. Bon, tu dis bon match, j'ai essayé, ça marchait pas. Vraiment, aujourd'hui, j'étais dans un jour sans. J'ai pas de chance. Pour moi, la tactique, ça permet de compenser quand tu peux avoir des défaillances, de trouver d'autres solutions par rapport à ton jeu idéal. Alors, moi, je considère que trouver une solution tactique, ça fait partie aussi du jeu et ça fait aussi partie du plaisir du jeu. Parce que réussir à trouver un schéma qui perturbe considérablement un joueur qui est sensiblement meilleur que toi techniquement, eh ben, ça a un petit côté satisfaisant intellectuellement. Et en plus, il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec leurs armes. On fait un service à la cuillère, on surprend l'autre. Pour moi, il y en a qui disent ouais, c'est nul, c'est de l'anti-jeu. Enfin, c'est. Et moi, je dis que ça fait partie du jeu, c'est une palette technique. Alors, tout en étant extraordinairement fair sur le comportement et sur la manière de gagner. Mais en utilisant les règles, utilisant tous les ressorts du tennis et qui sont multiples, c'est rajouter une palette, une dimension supplémentaire à ce jeu.
Avant d'aller sur la théorie des angles que j'aimerais que tu nous expliques, qui est je pense, un segment assez important sur la tactique, voilà. Je regarde la série Netflix avec Daniil, qui j'avais pas trop vu passer à Roland et fait un peu d'anti-jeu. On l'appelle le chess master, le joueur d'échecs, mais ça va faire partie de son jeu de jouer avec le public, de jouer avec les éléments quand il shoote dans le poteau contre. Zverev qui est de retour à Roland et qui rentre dans sa tête alors que Zverev sert pour le match. Daniil a beau être un stratège incroyable, un battant, un fighter. De quel angle ou point de vue tu prends cet aspect du jeu de parfois faire de l'intox et rentrer un peu dans la tête de son adversaire pour le déstabiliser, on va dire en dehors des simples coups droit, revers, service, volée, contre-amorti, hein, on a noté. T'en penses quoi de tout ça? C'est une question très perso, hein.
Ouais. Alors, la question, c'est que là, on est vraiment au border.
Ouais.
Ça fait partie du jeu. Essayer, tu vois, pour moi, il peut y avoir des ruses de garçon de bain que je considère comme acceptables. Tu as un
Genre,
échange,
exemple.
tu es épuisé sur un échange, l'adversaire t'a fait énormément courir. Et tu vois, t'es au service, et puis par mégarde terrible, la balle tombe sur ton pied et roule. Donc effectivement, tu vas la chercher, tu reviens, mais bon, ça a pris 10 secondes, quoi. Mais bon, ça, c'est un peu ficelle. Bon,
Ouais, tu vas chercher ta serviette, tu vas chercher les balles, ça revient au
voilà,
même,
exactement.
ça revient au
Donc, tu
même.
vois. Ça, pour moi, ça fait partie du jeu. Tant que tu dépasses pas les 40 secondes, franchement, en tournoi, ouais, tu as tellement de mecs qui vont faire des fautes de pied de 30 cm que enfin, c'est compliqué. Quand tu t'auto-arbitres, ça, c'est compliqué. Après, tu vois, il y a tout ce qui est trash talking qui, pour moi, est clairement de l'autre côté de la ligne blanche, quoi. Enfin,
Ok.
t'as pas le droit. En revanche, moi, ce qui fait partie du jeu, ça peut être des éléments en disant tu rates deux coups droits et tu dis ostensiblement oh là là, mais aujourd'hui mon coup droit c'est rien, j'arrive pas à en mettre dedans, alors que tu sais que ça reste à ta force et que c'est pour inciter l'autre à jouer sur ton coup droit, alors que ton revers est bien moins fort, quoi. Donc, ça, c'est des éléments. Pour moi, qui sont du bon côté de la ligne. Tu vois,
Ok.
c'est d'essayer d'influencer l'adversaire sur des trucs que tu dis à toi-même, mais qui sont pas nécessairement à 100%.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ce que tu penses à l'instant précis, quoi.
Ouais, ça reste gentil. Il y a un prépa mental qui m'avait dit au changement de côté, hésite pas à dire à ton adversaire wow, qu'est-ce que tu joues bien en ce moment. Et le simple
Ça,
fait de
c'est.
dire ça, forcément, ça fait psychoter. Je me vois pas faire un truc pareil. Je sais pas toi, mais je trouve
Bah,
ça.
pas spontanément si on a s'il aborde pas le si s'il si, 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 si parle pas, mais s'il parle, moi. féliciter très souvent l'adversaire quand il fait un coup exceptionnel, moi, je le fais systématiquement. Quand je pense qu'il a une chance sur 10 de réussir ce coup, je l'applaudis et je dis c'est formidable et tout, parce que j'ai qu'une envie, c'est qu'il le refasse et qu'il le rate. À l'inverse,
Malin.
c'est là où je pense que Djokovic, il est plus honnête, parce que quand il félicite l'adversaire, je pense que vraiment, il y a une part de sincérité dans ses propos.
Novak, si tu peux témoigner, ça nous ferait plaisir. La théorie des angles, du coup, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Moi, ça, j'ai commencé le tennis à 8 ans, j'ai 33 ans, je l'ai appris il y a 3 ans, je crois. Donc, si on peut faire gagner du temps à certains, on est preneur.
Bah, c'est là encore, c'est que de la géométrie et c'est que de si on joue croisé, bah là, le replacement il n'est pas au milieu du court, il est en fonction des angles des coups que tu peux jouer, il est au milieu de la bisectrice et donc tu vas pas te situer au milieu du court, mais tu vas te situer 1 mètre probablement décalé. Dans l'angle croisé pour couvrir plus complètement le terrain. Et ça t'évite de courir, ça permet de réduire les angles. Mais ça veut aussi dire qu'au moment où tu frappes un coup, tu sais où la balle va arriver. Donc tu sais déjà à l'endroit où il faut te replacer. Donc tu frappes ton coup, tu sais par exemple que bon, tu as joué long de ligne et tu pensais tuer, mais finalement tu vas pas tuer. Ben, tu sais qu'il va falloir que tu te replaces et que tu as 4 mètres à faire pour être dans le bon endroit de replacement sur le terrain, quoi. Donc, toujours anticiper, puisque c'est toi qui décides où tu envoies la balle, tu sais déjà à l'endroit où il va falloir que tu te replaces.
Oui, c'est un jeu d'anticipation. Ouais, il nous faudrait un schéma, mais on l'a pas. Du
Ouais, il
coup,
faut
ça.
un schéma parce que sinon, c'est compliqué.
Bon, en gros, je joue croisé, tu te mets bien milieu du court parce que tu peux prendre un long de ligne. Tu joues long de ligne. Au contraire,
Puis tu
tu
restes du
entres.
même côté, enfin, non, tu joues long de ligne et tu vas au filet, tu restes du même côté, tu joues long de ligne et tu vas au fond, tu vas dans la diagonale,
Ouais,
tu
tu
vas de l'autre
anticipes.
côté de la diagonale.
Ouais. Question du coup, comme tu disais, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu sais où tu vas jouer, tu sais la zone que tu vas trouver. Là, c'est justement une des objections que j'ai eues sur ton ouvrage où on me dit ma principale remarque, c'est que ça s'adresse globalement à des très bons joueurs capables de trouver des zones justement et de finir les points. Ce qui, selon moi, est le cas à partir de deuxième série. Avant ça, on joue pour faire moins de fautes que l'autre. Toute la partie statistique, bon, ça, c'est encore autre chose. Toute la partie statistique de la deuxième partie concerne les chiffres des pros, donc pas applicable pour le joueur moyen. Et moi, j'ai répondu, t'inquiète, Cyril est 15-2. Enfin, était 15-2. Du coup, qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que la personne me dit, perso, j'ai beaucoup de mal à vraiment viser des zones précises tout en gardant de la sécurité. Et les mecs que j'affronte, c'est un peu pareil. Je parle en situation de match avec la pression.
Alors là, enfin, je suis pas d'accord. Après, la question, c'est la zone de sécurité. Si tu prends un joueur qui est dans les 100 premiers, il va pouvoir placer une balle avec une précision, je dis n'importe quoi, de 40 cm, de 30 cm, et donc il va prendre une marge de sécurité de 50-60 pour être sûr de ne pas faire faute. D'accord? Mais même au niveau quatrième série, on a une zone de précision qui, au lieu d'être 40 cm, c'est 1 mètre, mais ça n'empêche pas que. Donc, tu vas prendre une marge de sécurité qui est plus importante, mais les principes sont exactement les mêmes. Donc, tu joueras avec un écart-type qui est plus important par rapport à l'endroit où tu veux jouer. Mais comme tu prendras plus de sécurité en jouant moins près de la ligne au départ parce que tu sais que tu peux faire une erreur d'un mètre, ça fait partie de ton calcul. Mais jouer croisé ou long de ligne, que tu sois à 40 cm ou à 1 mètre d'écart, ça change pas grand-chose à la fin. Et de toute manière, les autres courent plus vite, donc ils couvriront mieux les angles, et ton adversaire, il est quatrième série, il sera moins rapide, donc même si tu joues un peu moins près de la ligne, à la fin, les résultats seront pas très différents, in fine. Sur la tactique, ça change pas beaucoup. Là où ça intervient sur la technique. Mais sur la tactique, ça change rien. Les principes tactiques, le cours, il change pas, c'est le même. Les principes géométriques changent pas. Donc, que tu sois numéro un mondial ou que tu sois quatrième série ou non classé, ces principes, ils s'imposent à toi. Et donc, la théorie des angles, c'est pas parce que tu es numéro un mondial ou que tu es quatrième série qu'elle va changer. Non, c'est exactement la même. Alors, sur l'aspect technique, c'est vrai. Et moi, je prends souvent l'exemple de tu as un adversaire qui monte à la volée. Tu lui fais une balle haute sur le revers, sans difficulté particulière, elle n'est pas spécialement vive, elle n'est pas spécialement compliquée. En quatrième série, tu fais le point. Le mec, il ne sait pas la faire. En troisième série, il va te faire systématiquement le même coup, il va te faire une volée croisée. En deuxième série, mais qui sera pas rapide. Il va te faire une volée croisée, pas rapide. Donc, si tu peux quasiment l'anticiper et tu vas aller. Sur deuxième série, il est capable de te la mettre toujours pas forte, croisée, mais aussi dans le contre-pied. Et après, en première série, il te la met forte et où il veut. Donc, effectivement, ce qui est un très bon coup pour un quatrième série, parce que tu es quasi sûr de faire le point. Le mec, il va essayer de se matcher de revers, il va faire n'importe quoi, ou au pire, il va te la remettre en cloche, et donc là, tu vas l'achever sans rémission. Ça va être un coup où tu vas te faire exploser sur un très bon joueur mondial parce qu'il te la met où il veut avec la force qu'il veut, quoi. Mais donc, ça, sur les aspects purement techniques, oui, mais sur les aspects tactiques, non. Ça reste valable qu'est-ce que soit le joueur, parce que les principes et le terrain ne changent pas.
Il y a un chapitre qui m'intrigue, c'est placement au service et au retour. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller là-dessus?
En fait, et pendant très longtemps, on s'apercevait que les joueurs servaient collés au milieu du service pour faire leur service. Et objectivement, si on regarde depuis... Je dis pas depuis que mon livre est sorti, mais si on regarde maintenant les joueurs, systématiquement, ils servent à 1 mètre, 1 mètre et demi du milieu du terrain. Et en fait, ça permet d'optimiser par rapport à la hauteur du filet, parce que le filet, il est bas au milieu. Donc effectivement, quand on se met au milieu, c'est pratique pour servir des aises sur le T. Mais en revanche, le filet, il est très haut pour servir en extérieur. Donc ça permet, si, en servant 1 mètre et demi, pas au milieu, mais dans la diagonale où on va servir, ça permet d'ouvrir les angles et de faciliter des services à la fois extérieurs comme au T, et en ayant, si on veut jouer sur le corps, en ayant l'endroit où c'est la partie la plus basse. Donc ça permet d'optimiser tes zones au service en gagnant 2-3% de balles qui n'iront pas se manger la bande du filet parce que là, le filet sera trop haut, quoi.
Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai pas trop traîné mes guêtres quatrième et troisième série, c'est aller vite, mais j'ai rarement vu des mecs collés au milieu du court pour servir, hein, par contre. Mais c'est bien que tu nous le précises après, qu'on l'ait en tête.
Tu vois, il y a 20 ans, les gens jouaient. Enfin, moi, j'ai quand même eu un peu plus de bouteilles que toi. Les gens servaient systématiquement au milieu.
Ah ouais.
Et ça, c'est un changement qui est intervenu au cours des 20 dernières années.
Peut-être dans la formation aussi pour le DE, tout ça a été un point. Mais moi, je me souviens très bien, mon prof à l'époque, 98-2000, tu vois, me dire, non, tu te mets là. Après, relais d'appui ou départ statique, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, intéressant à savoir que tu as plus d'angle à ce moment-là. Moi, hier, j'ai joué à un gaucher, là, à 3-6, je suis courbaturé comme jamais. Et il se
Ah, c'est
décalait.
une sale race, les gauchers, hein?
Ouais, bon, après, j'aime bien parce que coup fort, c'est mon revers, donc il
Ah.
essayait de m'enfermer dessus, et ça, pour le coup, c'était du petit dé. Et il se décalait un petit peu au retour, côté avantage, pour laisser le coup droit ouvert. Je sentais qu'il voulait que j'oriente mon service sur son coup droit. Et donc, j'allais évidemment plus en slice sur son revers, mais de temps en temps, je me rapprochais au service du milieu du court pour trouver un kick sortant et un peu varié quand même. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Si tu peux grappiller 30 cm, tu les prends. Donc de la même manière, grappiller de la sécurité ou de l'angle en se décalant, top. Et du coup, placement au retour de service, qu'est-ce que tu recommanderais?
Bah, moi, je reste, alors ça dépend de la qualité du service adverse, mais je reste plutôt, et si on n'a pas un écart énorme entre son coup droit et son revers en qualité de retour, toujours théorie des angles. C'est-à-dire, je vais essayer de minimiser les espaces libres où l'adversaire peut, avec un service, faire un point gagnant. Il faut, quoi qu'il arrive, que je puisse la toucher. Donc, je vais respecter la théorie des angles et être le plus au milieu possible de cette théorie des angles, en sachant que j'ai moins d'allonge sur le revers que sur le coup droit. Donc, j'en tiens un tout petit peu compte. Donc, je suis un tout petit peu décalé par rapport à la théorie du placement au milieu de la bisectrice. Je vais probablement être 10 cm plus côté revers parce que je sais que j'ai moins d'allonge et que je pourrais plus plonger côté coup droit que côté revers où là, il y a déjà la taille de mon tronc qui va faire que j'aurai un tout petit peu moins d'allonge, quoi.
Juste la bisectrice, tu peux nous la redéfinir, s'il te plaît, pour tous ceux qui sont pas très matheux.
Alors, la bisectrice, c'est on prend un angle et c'est le trait qui partage au milieu
Équidistant.
les deux angles. C'est-à-dire, il y a équidistance entre les deux zones que l'adversaire peut toucher.
Yes.
Les deux zones extrêmes que l'adversaire peut toucher. Et les deux
Et
zones extrêmes se définissent en fonction de la hauteur du filet et de l'endroit où il frappe la balle.
un conseil très simple de Daniel Comté, ex-joueur de Coupe Davis, il me semble, qui a été joueur professionnel, qui avait une structure d'entraînement dans le sud de la France, qui disait à ses poulains, hauteur égale longueur, les gars. Alors faites-moi le plaisir de trouver de la hauteur. Et je crois d'ailleurs, c'est Fab Sbarro qui disait ça. T'analyses la hauteur des mecs dans le top 100, c'est impressionnant. Ça passe 1,50 m au-dessus du filet, quoi. On s'en rend pas compte. Ça va à une telle vitesse, mais il y
Et
a une sécurité
le
de
tennis,
dingue.
enfin, la télévision écrase énormément. C'est pour ça qu'il faut aller voir les matchs pour se rendre compte. Si on regarde que les matchs à la télévision, on a l'impression qu'ils jouent très très près du filet. En fait, ça va vite, mais ça passe quand même très haut par rapport au filet. Ça donne beaucoup de sécurité. C'est l'avantage du lift aujourd'hui. C'est que tu as des zones et des marges de confiance sur tes coups qui sont quand même assez suffisantes, quoi. Et c'est assez intéressant. Il y avait aussi des stats où tu voyais la hauteur moyenne par rapport au filet de Nadal, par rapport à Federer, et ça t'expliquait aussi pas mal de choses, quoi,
Il y a une...
en termes de faute directe.
C'est-à-dire Roger jouait plus bas que Nadal et faisait plus de fautes.
Ouais. Il y avait quasiment 50 cm d'écart entre les hauteurs de balle par rapport au filet, quoi.
L'un contre l'autre, tu veux dire?
Oui.
Ok. Il y a une ligne dans ton pour approfondir que j'adore, qui est à la croisée des chemins entre tactique et mental. C'est double faute. Et psychologie. Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que ça, c'est un segment du jeu qui rend dingue. T'as peur d'en faire des doubles fautes. T'en fais une, tu peux en faire 15. Du coup, what is the key?
Non,
Enfin,
mais
Cyril, pardon, excuse-moi.
la double faute, on sait qu'on va la faire avant de la faire.
Oh, ouah, ça dépend, ça
Dans
dépend.
beaucoup de cas, on sait que on anticipe, on sait qu'on n'est pas dans son schéma normal et qu'on n'est pas à l'aise. Donc, quand on est quasiment sûr de faire une double, et ça peut arriver, il y a des moments où il y a des matchs où pendant 6 mois, on est très à l'aise et tout se passe bien et on ne se pose pas de questions. Le tennis, c'est essentiellement mental. Donc, et quand soudain, ça vient à se casser, une double, on sait qu'on va la faire. Moi, quand je sais que je vais faire une double faute, et ça, je sais l'anticiper parce que je me connais aussi, bah, je préfère servir à la cuillère, quitte à me prendre un pain derrière, que de donner le point gratos.
Et derrière, ça
Et
te permet de
après,
repartir plus
ça
confiant
permet
ou...
de repartir confiant, ça teste l'adversaire. Si deux, trois fois, il te met un pain, bah, tu ne le feras plus. Mais tu sais que désormais, tu n'as plus d'autres solutions que de servir une vraie deuxième et qui passe bien. Après, on s'aperçoit que les doubles fautes au fil du match, c'est pas exactement les mêmes. Plus on se rapproche du troisième set, plus la double faute, ça va être une double faute dans le filet. Parce que
Moins.
on est plus fatigué, parce qu'on lance la balle plus haut. Donc, essayer de traiter ces éléments-là un peu en amont, en disant bon, ben, je suis un peu plus fatigué, je vais mettre un peu plus d'effet, un peu plus de rondeur à mon deuxième service. Et surtout, pour moi, un deuxième service, c'est haut, fort et lifté, quoi. Enfin, il y a.
Fort, il y a fort et fort, hein. Faut y aller,
Oui, mais
ses capacités, quoi.
en fait, comme c'est psychologique, plus tu tapes faible, plus tu cogites et plus c'est catastrophique. Pour moi, si tu tapes tout le temps à la même force, ça permet d'avoir, de prendre des marques et de savoir à peu près où ça va. Et pour donner de la sécurité, ben, tu mets plus de lift pour que la balle reste dans le terrain. Mais haut, fort et devant, et surtout la taper devant, c'est quand même des éléments où tu te donnes des éléments de confort pour réussir ta deuxième balle, quoi.
Pour mettre de la gratte, on recommande plus au-dessus, hein, que
Ouais, plutôt
devant.
derrière, j'entends bien,
Pas
mais
forcément derrière, mais au-dessus en tout cas.
ouais, au-dessus même. Mais moi, je vois que les joueurs qui hésitent à taper leur deuxième balle, enfin, ou
La
qui font de la
pousse.
poussette ou de la tapette à mouche, bah, ils font plus de double faute que les mecs qui prennent vraiment leur chance. Et en plus, psychologiquement, c'est catastrophique, quoi. Donc,
Autre question à la croisée des chemins mentaux et tactiques. Comment jouer contre un adversaire meilleur que soi, qui est un passage de temps libre?
C'est un peu comme si je prends la guerre. Si on est moins fort, il faut réussir à faire une sorte de guerre psychologique et de guérilla. La pire des choses, ça serait d'essayer de dire je vais le battre à son jeu, le mec est plus fort que moi, je vais tout envoyer et je vais le battre en puissance. Un, parce que c'est pas son niveau, on va perdre, on lui facilite le jeu, on joue à un niveau où il a l'habitude de jouer, donc c'est encore plus facile. Donc, pour moi, essayer de surjouer, c'est la pire des solutions. En revanche, entamer, c'est la stratégie du faible au fort. Dans la stratégie du faible au fort, comment est-ce qu'on peut gagner? Il faut jouer sur le moral de l'adversaire et faire de la guérilla. Donc, la guérilla, au tennis, ça se traduit comment? Ben, faire, si en face, j'ai l'excellent Maxime qui est 3-6 et qui aime le beau jeu et le panache. Ben, je vais lui faire des balles hautes, longues. Je vais essayer qu'il s'énerve. La même chose que, comme on vient de l'expliquer, Gilles Simon face à Djokovic. Je vais faire des choses qui va essayer de le perturber. Je vais faire amorti lob. Je vais essayer de lui casser la cadence où il joue si bien. Et essayer de le perturber, dire mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que ça m'emmerde ce jeu? Et donc avoir la stratégie du faible au fort, guérilla, je lui fais des trucs qui l'emmerdent et j'essaye d'entrer dans sa tête pour lui casser son moral. En sachant que lui, il est meilleur que moi, il est persuadé qu'il va m'exploser. Donc il sait que s'il perd contre moi, c'est la honte, c'est une contre. Donc la pression psychologique, elle est sur lui. Moi, franchement, si je perds contre lui, il est plus fort, c'est normal, j'ai rien à perdre, j'ai rien à me reposer. Si le match dure longtemps, ben, au total, c'est tout à mon avantage, lui, il va se fatiguer. Donc voilà, entrer dans une guerre de guérilla pour entrer dans la tête de l'autre et essayer de le déstabiliser psychologiquement. Mais essayer de rentrer dans son jeu, de frapper des coups comme jamais, pour moi, c'est la pire des solutions.
Bon, je me fais l'avocat du diable, mais je suis là pour ça. Hein. Alors
Et puis
déjà,
toi,
ça.
t'es le 3-6 et moi, je suis le 15-2, donc tu vois.
Après, ça me touche que tu dises que je suis à 3-6, mais c'est plus le cas.
Mais moi, je suis plus 15-2 non plus, donc je te rassure aussi,
Ah bah ça va alors. Je fais quasiment plus de tournois, mais là, je profite d'un moment où je suis pendant je sais même pas combien de temps à la maison entre deux déplacements. Du coup, je me suis inscrit sur Terre au Biarritz Olympique. Et tu vois, deuxième tour, je rejoue à 15, mais un énorme traquenard, je suis à 5. Je rejoue à 15, un mec qui a perfait, gros traquenard. Je suis mené 6-2-1-0 break. Et je me dis là, à ce rythme-là, dans 15 minutes, c'est fini. Physiquement, Si je décroche de ma ligne pour ce que tu viens de dire, rentrer dans la guérilla, je vais tenir, allez, 18 minutes au lieu de 15 parce que j'aurais fait des rallyes, mais je sens que c'est pas ça qu'il me faut, tu vois. Après, en effet, j'ai quand même un petit fonds de commerce qui me permet d'avoir le choix de soit faire de la guérilla, soit je me dis, bah non, mon gars, en fait, là, il faut que tu le bouscules, il faut que tu colles à ta ligne, il faut que tu le surprennes et que le mec ne se sente en insécurité. Du coup, même si j'avais fait beaucoup de fautes au premier, j'ai essayé de me relâcher un petit peu, de prendre un mètre plus tôt, tu vois, de recoller à ma ligne. J'ai fait énormément d'amortis, j'ai beaucoup plus varié et je suis rentré un peu dans sa tête comme ça et je gagne 4 et 4, tu vois. Mais vraiment, en créant du jeu, en me disant retour de service, intention de jeu. Deuxième coup après le service, intention de jeu, t'es prêt, t'y vas, et j'ai créé du jeu, tu vois. Donc je me fais un peu l'avocat du diable là-dessus.
Mais
Qu'est-ce que
pour
t'en
moi,
penses?
faire un ensemble d'amortis, c'est rentrer de facto dans la guérilla, quoi. Enfin, tu vas changer les schémas tactiques, tu vas le perturber, tu vas le sortir de sa zone de confort, et de facto, tu dis que tu as fait pas mal d'amortis, ben tu as quand même modifié ton jeu pour le perturber, quoi. Et ça, c'est une dimension tactique.
Okay. Merci, monsieur l'expert. Est-ce que du coup, toi, tu es dans le 15e, hein, c'est ça?
Oui, je suis dans le 15e à Paris, oui.
Est-ce que tactiquement, tu es la pire purge de toute la région parisienne à se taper au premier ou au deuxième tour en troisième série? Parce que tu dois être quand même un fin stratège, ça m'intrigue.
Ouais, les gens aiment pas trop jouer contre moi, en règle générale. Mais moi, ce que j'aime bien aussi dans le tennis, c'est les matchs par équipe. Parce que
Ouais.
là aussi, tu as une dimension coaching qui n'intervient pas sur les tournois individuels. Et donc, je fais aussi beaucoup de matchs par équipe pour pouvoir aider mes partenaires et trouver des solutions et récupérer des solutions qui ne sont pas évidentes. Et ça, c'est aussi le côté sympathique du tennis, ce qu'il y avait avant dans la Coupe Davis qui n'existe plus vraiment. Et là, quand le tennis qui joue comme ça en équipe avec du coaching, c'est quand même, ça donne une dimension supplémentaire au jeu pour moi.
Ouais. Moi, j'ai un exemple de débrief de match lunaire. Je joue à deux il y a 3 ans. Je suis en surchauffe parce que j'ai fait plein de matchs. Je joue trop bien, même si physiquement je suis atteint, je sens la balle comme jamais. Et je prends deux et trois alors que j'ai balle de jeu à tous les jeux. Et en buvant un coup, le mec me dit, c'est con parce que tu m'as fait deux amortis, j'y suis pas allé parce que j'ai un problème de course vers l'avant. Je ne peux pas y aller. Et là, je me suis senti si con pendant 48 heures sous la douche. Je me souviens, tu sais, les moments de creux dans ta journée où t'as que ça à penser. Je me disais, mais oh, mais quel débile. Ça m'a hanté pendant des jours. Est-ce qu'il y a des moments comme ça dans ta carrière où tu t'es dit, putain, là, je l'ai pas joué fine, j'ai pas été bon. Et t'as senti que ça, du coup, ça t'avait fait des petits déclics sur la suite de tes analyses, de j'en sais rien, pendant les matchs, analyser plus rapidement, aller plus vite dans tes choix. T'as eu des passages comme ça ou pas? Parce que moi, clairement, ça m'a aidé, tu vois.
Perso, j'ai pas le souvenir. Il y a des moments où tu t'es dit, bah, le mec, il est quand même sensiblement plus jeune. Tu as pris cette tactique qui était effectivement de le pousser à faire la faute, mais le mec, il t'a joué en cadence, il t'a fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et au total, tu t'es soufflé, tu t'es fatigué plus vite que lui, et c'était pas le bon choix parce que tu n'as pas pris tous les paramètres. Objectivement, la tactique était probablement la bonne. Mais pour gagner en trois, enfin, si tu n'arrives pas à gagner en 2-7, tu vas perdre en 3, quoi. Et là, intégrer au départ les différents paramètres en disant, ben ouais, mais tu vas arriver au troisième avec ce système-là et tu risques d'être cramé, ça valait probablement plus le coup d'être un tout petit peu plus offensif et essayer de prendre le jeu parce que la tactique était la bonne, tu as gagné le premier, mais à 4-2 dans le deuxième, pour toi, physiquement, tu étais beaucoup moins là. Et c'était juste un problème physique. Et le mec, il 30 ans. Et au total, il s'en sort mieux. Donc, il fallait mieux gérer ton capital physique parce que la tactique était la bonne. Mais au total, tu perds, quoi.
Imagine le pire scénario, 4-2 au deuxième contre toi, t'es flingué, t'es au bord de la crise d'hypoglycémie, t'as plus de bananes et le clubhouse est fermé. Ah là, mon gars.
Non, mais là, ça c'est une faute. Pour moi, c'est une faute parce que tu dois arriver avec ton matos, tout ça. Enfin, t'as pas le droit, si tu es un peu compétiteur, de dire, ah ben, ouais, j'ai pas prévu la banane, ouais, j'ai pas prévu suffisamment d'eau, j'ai pas. Cela dit, tu plaisantes, mais cette année, j'arrive avec trois raquettes. Au premier set, je casse le cordage de la première. Bon, pas normal. J'en ai deux neuves. À la fin du deuxième set, je casse la deuxième raquette, super tie-break, et à 2-2, la balle, elle avait joué quatre échanges, enfin la raquette, elle avait joué quatre
Ah, tu
échanges,
boises.
elle casse.
Et t'as boisé, c'est pas possible.
Non, 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 elle casse.
Bah, c'est parce
Alors
que
c'était
ça
la période où
fait.
il avait fait 38 degrés, enfin on jouait en intérieur, donc peut-être qu'il y avait des éléments là-dessus. Mais donc je me retrouve, on joue à 8 heures du matin, au bout du monde, il n'y a personne, j'ai plus de raquette. Je vais vers mon adversaire et je lui dis,
Est-ce que je peux te niquer avec ta raquette, s'il te plaît?
non, 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 je lui dis, j'abandonne, j'ai plus de matériel, je te laisse
Bon?
gagner. Le mec super fair play me dit, bah, si tu veux, prends une de mes raquettes.
Sympa.
Et donc, et à la fin, j'ai gagné 11-9 au tie break.
Ah, le pire truc, c'est
Ah,
beau.
pour lui, ça doit être terrible.
C'est énorme, magnifique. Alors, il y a évidemment mille autres aspects qu'on va pas forcément aborder maintenant, mais je vous donne quelques teasers si vous voulez lire le livre de Cyril. Comment jouer face à un gaucher, comment jouer dans des conditions climatiques difficiles. Comment jouer face à un revers à deux mains ou à une main, les principaux schémas tactiques du tennis féminin, on passe, et après il y a tout un passage sur le tennis féminin, la tactique en tennis fauteuil, les tactiques en double également, donc voilà, livre très complet, on fera peut-être une masterclass ensemble, on en reparlera. Ce qui m'intrigue, c'est de savoir si ton livre, ton ouvrage, t'a permis de vivre des aventures assez sympa. Est-ce que ça t'a ouvert des portes particulières? Tu disais que tu avais connecté avec Fabrice. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes en marge de ça, en marge
Ouais,
voilà, de ce
c'est.
beau projet, quoi?
Bah, j'ai une activité professionnelle et on ne vit pas de la vente de livres de tennis,
T'en as
même
vendu
s'il
combien
marche.
d'ailleurs? T'en as vendu combien?
Là, on est à 7 000, 7 500.
Ah ouais, c'est beau.
Je pense que depuis 2016, c'est l'ouvrage sur le tennis qui s'est le mieux vendu.
Incroyable,
Ouais.
bravo.
Donc, sur mon activité professionnelle, je vais voir un client, on parle 1 heure, je lui vends ma salade, ça se passe bien, on se comprend bien. Et puis. Je ne sais pas pour quelle raison, à la fin de la discussion, je lui dis, bah, si vous allez me googler, vous ne me verrez pas sur mon activité professionnelle, vous me verrez plus sur le tennis. Et le mec me dit, bah, c'est très bien, au contraire, moi j'adore le tennis. Et puis il va sur Google et effectivement, il voit le bouquin, il dit, mais je le connais ce bouquin, je l'ai lu et il me cite des passages de mon bouquin, quoi.
Incroyable, c'est beau.
C'était incroyable et donc bon après ça c'est on a joué ensemble enfin mais c'était très sympa quoi.
Très bon ça. Et chez Amphora, t'as rencontré qui d'autre? Tu disais, t'as rencontré les auteurs?
Ben, j'ai rencontré il y a par exemple le Fabrice Barrault mais par exemple un personnage qui est aussi atypique c'est Bertrand Lelouch qui fait des livres sur l'ultra trail et qui lui est directeur financier, mais qui est un expert sur tout ce qui est ultra trail et qui a fait trois livres chez Amphora et qui est une personnalité tout à fait atypique également.
T'as bien connecté avec lui?
Ouais. Franchement, c'est un très bon ami désormais.
Ah, génial, trop bien. Donc, pour terminer cette interview, j'ai quelques questions de fin. T'écoutais un peu les podcasts ou pas? T'as vu passer un peu ou...
Oui,
Ouais?
je suis.
Magnifique. Du coup, Cyril, est-ce que... Par où on va commencer? Un autre livre, hein? On va commencer par ça. Un livre que tu as l'habitude d'offrir à des proches, une lecture qui t'inspire, si tu devais en sortir un.
Sur le tennis,
Non, pas forcément ouvert.
Oh bah, alors sur le tennis, moi je trouve que la Bible, c'est le livre de Caroline Martin sur la biomécanique, il y a un gros pavé, franchement.
Faut se l'envoyer, hein. Faut être bon
Pardon?
au mental, hein. Faut y aller, hein.
Ouais. Non, non, mais enfin, c'est pas pour lire d'un trait comme un roman. Et là, on va passer sur l'autre. je reste un fan d'Alexandre Dumas, quoi. Enfin, il faut tout connaître d'Alexandre Dumas, entre la réalité historique, la manière dont il présente les choses.
Un livre en particulier?
Tous, mais la reine Margot, enfin, tous, c'est fabuleux. Moi, je
Génial.
suis un vrai fan d'Alexandre Dumas, parce
Trop bien.
il part de l'histoire, il y a 80% de vérité historique, et puis il joue avec les 20% de romanesque qui crée, donc ça donne un aspect de vérité et un vrai mensonge, tu vois, c'est 80% de vérité et 20% d'adaptation, quoi.
C'est beau ça, trop bien. Le concert le plus ouf auquel tu as assisté dans ta vie?
Pour moi, c'est quand même U2, parce que quand ils font des concerts dans, par exemple, le Stade de France, où c'est quand même assez impressionnant, quoi. Toi, t'en prends plein les yeux, c'est objectivement.
Ton film préféré?
Moi, je trouve que là, Brûle-Pourpoint, la vie est belle. Parce que c'est un film qui est bon pour moi, c'est un film où tu ris, tu pleures, tu ris, tu pleures, tu ris, tu pleures. Et là, où tu vois le père qui va se démener pour faire passer la réalité d'un camp de concentration pour un grand jeu, c'est quelque chose qui est extraordinairement émouvant. Et tu vois aussi des films pour avoir de l'émotion et de sortir du quotidien, quoi.
Si tu pouvais te murmurer quelques mots, te coacher au Cyril qui n'était pas encore initié à la tactique au tennis, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant avec ton expérience?
Bah, y croire. Enfin, moi, dans l'essentiel des matchs, quand je commence l'entraînement, je me dis, oh putain, le mec, il est meilleur. Et à la fin, j'en gagne quand même une majorité. Donc, si tu joues contre lui, c'est qu'il a quand même des faiblesses. Sinon, il serait dans un autre niveau. Et donc, ton but, c'est de trouver ses faiblesses. Et donc, c'est un peu comme une enquête. Tu vas voir ce qu'il fait bien, ce qu'il fait pas bien, et tu vas le pousser à aller dans les endroits où il est moins confortable, quoi. Alors,
Bon,
ça peut être technique, ça peut être mental, ça peut être physique, mais c'est à toi de chercher et de mener ta propre enquête pour savoir là où il va déjouer.
juste pour bien comprendre, toi tu es capable, si le gars n'aime pas les cloches sur le revers, un exemple tout bête, hein, tu es capable de faire ça pendant 4 heures s'il le faut.
Pas nécessairement, mais le faire juste sur les points qui sont importants.
Ok.
Tu vois? Tu vas détecter les faiblesses, tu ne vas pas le faire systématiquement parce que tu prends le risque que le mec trouve une solution au truc où tu gagnes des points, mais dès qu'il y a des points importants, là, tu vas le faire.
Ok, ah, c'est la nuance. D'accord. L'expérience la plus folle de ta vie, tu dirais que c'est quoi? Un truc perso en dehors de la naissance des enfants qui peut être incroyable. D'ailleurs, tu as des enfants?
Oui, j'ai trois filles. Donc
Bravo.
évidemment, c'était ça, mais... Je dirais qu'une des grosses émotions, c'est effectivement quand, tu vois, moi, je venais pas du tennis, quand tu vois ton livre qui est imprimé pour la première fois, c'est un truc qui te fait quand même quelque chose de particulier.
C'est bon ça. T'as croisé des gens déjà dans le train ou dans les transports en commun en train de le lire?
Non.
Non?
Non. Mais j'ai rencontré, enfin, effectivement, ce que tu dis, tu vas chez un ami et tu vois le bouquin y est, quoi. Ça arrive assez souvent, ouais.
Et il n'a pas fait genre de le mettre en face de toi sur la
Non, parce
commode.
que tu vois, c'est dans des réceptions ou des trucs. Enfin, mais
Ouais.
à l'inverse, c'est des gens, souvent dans tes amis, tu as des gens aussi qui aiment bien le tennis. Donc, tu vois, c'est un peu.
Ouais. Si tu devais sortir un segment des gens qui lisent ton bouquin en particulier, ça ressemble à quoi? On est sur du... Enfin, moi, je le perçois comme ça. Je ne sais pas si c'est la réalité, mais je le perçois comme cadre supérieur qui est vraiment dans l'optimisation, qui a envie de... tu vois, qui va chercher, qui est quand même dans une démarche de... Parce qu'intellectuellement, faut y aller, hein, faut se pousser quand même. Tu vois?
Ah ben ça couvre l'économie, la balistique, la physique. Enfin, c'est ça aussi où Amphora est bien, c'est que ils ont des profils, ils acceptent des idées, des schémas qui ont des parcours très, très différents. Moi, je ne viens pas nécessairement du tennis, mais c'est vrai que pour moi, le lectorat, c'est des gens qui ont plus de 40 ans, et qui vont essayer d'optimiser leur jeu parce qu'ils savent que techniquement, ça sera difficile de faire beaucoup plus. Donc, avec les armes qu'ils ont actuellement, comment ils peuvent optimiser et gagner un ou deux classements en jouant plus juste? Moi, j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disaient, ben, avant, je perdais systématiquement contre mon adversaire. J'ai lu le bouquin et depuis, je le bats, quoi. Enfin,
C'est
c'est
beau.
touchant, ça.
C'est clair. T'as changé des vies, Cyril. Faut le savoir. Des mecs qui n'en pouvaient plus 3 fois par semaine de perdre contre leur sparring. Ça y est,
Exactement.
ils se font enfin payer des tournées, les gars. C'est ça qui est beau, les
Mais c'est
gars.
pas bon pour le bouquin parce qu'ils veulent pas donner le bouquin à l'adversaire, tu vois.
Faites circuler, les gars, c'est là pour ça. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée sur la tactique? Tu dis c'est dommage, même si bon, on essaye de garder une part de mystère pour engager les gens à découvrir le lien. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas emmené et, ça aurait été bien d'en parler avant de terminer?
Non, juste sur le point, effectivement, il y a pas mal de statistiques qu'il y a dans le bouquin et qui permettent, qui sont aussi sur les pros, mais qui peuvent servir aussi pour savoir quels sont les bons schémas de jeu, quels sont les schémas de jeu qui sont les plus rémunérateurs. Et par exemple, le one-two-pitch, où tu sers extérieur, le schéma de jeu pour faire un point gagnant qui est le plus rémunérateur, c'est je sers extérieur et après j'attaque croisé, quoi. C'est assez intuitif, mais là, il y a des éléments qui permettent d'argumenter, de savoir comment ça se fait et à quelle fréquence il faut jouer dans le contre-pied, puisque quand tu sers extérieur, le mec te ramène, tu lui as mis deux fois de l'autre côté, et donc systématiquement il court, bah, avec quelle fréquence il va falloir que tu joues le contre-pied pour essayer de le surprendre, quoi.
C'est bon, ça. Je pense que c'est la bonne fin, ça. C'est parfait. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir répondu rapidement et pour ton temps. Et c'était un régal. Vraiment très cool.
Merci à toi, Maxime. C'est toujours un plaisir de te voir, de t'écouter et
Merci.
de regarder tes podcasts.
Ah, c'est adorable. Tu fais combien de matchs à peu près par an?
Une vingtaine, pas plus.
Ok. Bon, bah bonne saison. Régale-toi bien. Coach bien cet été pour les matchs par équipe. Allez,
Merci.
bonne journée. À très
Allez,
vite.
à bientôt.
Ciao,
Merci,
ciao.
bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode avec Cyril. Récupère les 7 clés tactiques de son livre pour t'aider à faire des choix payants sur le court et gagner plus de matchs, même sous pression. C'est notre tournée légende, c'est cadeau dans le premier lien en description. Et j'espère sincèrement que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et un commentaire. C'est hyper important pour nous. Prenez soin de vous, prenez du plaisir sur et en dehors du court. Et à très vite. Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.